Monsieur Poiret jeune, pour le distinguer de son frère Poiret l'aîné, retiré dans la maison Vauquer, où Poiret jeune allait parfois dîner, se proposant d'y finir également ses jours, avait 30 ans de service. La nature n'était pas si invariable dans ses révolutions que le pauvre homme dans les actes de sa vie. Il mettait toujours ses effets dans le même endroit, posait sa plume au même fil du bois, s'asseyait à sa place à la même heure, se chauffait au poêle à la même minute, car sa seule vanité consistait à porter une montre infaillible, réglée d'ailleurs tous les jours sur l'hôtel de ville devant lequel il passait, demeurant rue du Martroi. De 6 heures à 8 heures du matin, il tenait les livres d'une forte maison de nouveautés de la rue Saint-Antoine, et de 6 heures à 8 heures du soir, ceux dans la maison Camusot, rue des Bourdonnais. Il gagnait ainsi 1000 écus, y compris les émoluments de sa place. Atteignant à quelques mois près le temps voulu pour avoir sa pension, il montrait une grande indifférence aux intrigues des bureaux. Semblable à son frère à qui sa retraite avait porté un coup fatal, il baisserait sans doute beaucoup quand il n'aurait plus à venir de la rue du Martroi au ministère, à s'asseoir sur sa chaise et à expédier. Chargé de faire la collection du journal auquel s'abonnait le bureau et celle du moniteur, il avait le fanatisme de cette collection. Si quelque employé perdait un numéro, l'emportait et ne le rapportait pas, Poiret jeune se faisait autoriser à sortir, se rendait immédiatement au bureau du journal, réclamait le numéro manquant et revenait enthousiasmé de la politesse du caissier. Il avait toujours eu affaire à un charmant garçon et selon lui, les journalistes étaient décidément des gens aimables et peu connus. Homme de taille médiocre, Poiret avait des yeux à demi éteints, un regard faible et sans chaleur, une peau tannée, ridée, grise de ton, parsemée de petits grains bleuâtres, un nez camard et une bouche rentrée où flânaient quelques dents gâtées. Aussi, Tuilier disait-il que Poiret avait beau se regarder dans un miroir, il ne se voyait pas dedans. D-E-N-T-S. Ses bras, maigres et longs, étaient terminés par d'énormes mains sans aucune blancheur. Ses cheveux gris, collés par la pression de son chapeau, lui donnaient l'air d'un ecclésiastique, ressemblance peu flatteuse pour lui, car il haïssait les prêtres et le clergé, sans pouvoir expliquer ses opinions religieuses. Cette antipathie ne l'empêchait pas d'être extrêmement attaché au gouvernement, quel qu'il fût. Il ne boutonnait jamais sa vieille redingote verdâtre, même par les froids les plus violents. Il ne portait que des souliers à cordons et un pantalon noir. Il se fournissait dans les mêmes maisons depuis 30 ans. Quand son tailleur mourut, il demanda un congé pour aller à son enterrement et serra la main au fils sur la fosse du père en lui assurant sa pratique. L'ami de tous ses fournisseurs, il s'informait de leurs affaires, causait avec eux, écoutait leurs doléances et les payait comptant. S'il écrivait à quelqu'un de ces messieurs pour ordonner un changement dans sa commande, il observait les formules les plus polies, mettait monsieur en vedette, datait et faisait un brouillon de la lettre, qu'il gardait dans un carton, étiqueté « ma correspondance ». Aucune vie n'était plus en règle. Poiret possédait tous ses mémoires acquittés, toutes ses quittances, même minimes, et ses livres de dépenses annuels enveloppés dans des chemises et par année depuis son entrée au ministère. Il dînait au même restaurant, à la même place par abonnement, au Vauquitette, place du Châtelet. Les garçons lui gardaient sa place. Ne donnant pas au Cocon d'Or, la fameuse maison de soierie, 5 minutes au-delà du tendu, à 8h30, il arrivait au Café David, le plus célèbre du quartier, et y restait jusqu'à 11h. Il y venait comme au Vauquitette depuis 30 ans et prenait une bavaroise à 10h30. Il y écoutait les discussions politiques, les bras croisés sur sa canne et le menton dans sa main droite, sans jamais y participer. La dame du comptoir, seule femme à laquelle il parla avec plaisir, était la confidente des petits accidents de sa vie car il possédait sa place à la table située près du comptoir. Il jouait au domino, seul jeu qu'il lui comprit. Quand ses partenaires ne venaient pas, on le trouvait quelquefois endormi, le dos appuyé sur la boiserie et tenant un journal dont la planchette reposait sur le marbre de sa table. Il s'intéressait à tout ce qui se faisait dans Paris et consacrait le dimanche à surveiller les constructions nouvelles. Il questionnait l'invalide chargé d'empêcher le public d'entrer dans l'enceinte en planches et s'inquiétait des retards qu'éprouvaient les bâtisses, du manque de matériaux ou d'argent, des difficultés que rencontrait l'architecte. On lui entendait dire « J'ai vu sortir le Louvre de ses décombres, j'ai vu naître la place du Châtelet, le quai aux fleurs, les marchés ». Lui et son frère, né à Troyes d'un commis des fers, avaient été envoyés à Paris étudier dans les bureaux. Leur mère se fit remarquer par une inconduite désastreuse, car les deux frères eurent le chagrin d'apprendre sa mort à l'hôpital de Troyes, nonobstant de nombreux envois de fonds. Non seulement tous deux jurèrent alors de ne jamais se marier, mais ils prirent les enfants en horreur. Mal à leur aise auprès d'eux, ils les craignaient comme on peut craindre les fous, et les examinaient d'un œil hagard. L'un et l'autre, ils avaient été écrasés de besogne sous Robert Lindé. L'administration ne fut pas juste alors envers eux, mais ils se regardaient comme heureux d'avoir conservé leur tête et ne se plaignaient qu'entre eux de cette ingratitude, car ils avaient organisé le maximum. Quand on joua le tour à Félion de faire réformer sa fameuse phrase par Abourdin, Poiret prit Félion à part dans le corridor en sortant et lui dit « Croyez bien, monsieur, que je me suis opposé de tout mon pouvoir à ce qui a eu lieu. » Depuis son arrivée à Paris, il n'était jamais sorti de la ville. Dès ce temps, il avait commencé un journal de sa vie où il marquait les événements saillants de la journée. Dubruel lui apprit que Lord Byron faisait ainsi. Cette similitude combla Poiret de joie. Il l'engagea à acheter les œuvres de Lord Byron, traduction de Chastopaly, à laquelle il ne comprit rien du tout. On le surprenait souvent au bureau, dans une pose mélancolique, il avait l'air de penser profondément et ne songeait à rien. Il ne connaissait pas un seul des locataires de sa maison et gardait sur lui la clé de son domicile. Au jour de l'an, il portait lui-même ses cartes chez tous les employés de la division et ne faisait jamais de visite. Bissieu s'avisa par un jour de canicule de graisser de Saint-Doux l'intérieur d'un vieux chapeau que Poiret jeune, il avait 52 ans, ménageait depuis 9 années. Bissieu, qui n'avait jamais vu que ce chapeau-là sur la tête de Poiret, en rêvait. Il le voyait en mangeant. Il avait résolu, dans l'intérêt de ses digestions, de débarrasser les bureaux de cet immonde chapeau. Poiret jeune sortit vers 4 heures. En s'avançant dans les rues de Paris, où les rayons de soleil réfléchis par les pavés et les murailles produisent des chaleurs tropicales, il sentit sa tête inondée, lui qui suait rarement. S'estimant dès lors malade, ou sur le point de le devenir, au lieu d'aller au veau qui tête, il rentra chez lui, tira de son secrétaire le journal de sa vie, et consigna le fait de la manière suivante. Aujourd'hui, 3 juillet 1823, surpris par une sueur étrange et annonçant peut-être la suette, maladie particulière à la Champagne, je me dispose à consulter le docteur Audry. L'invasion du mal a commencé à la hauteur du quai de l'école. Tout à coup, étant sans chapeau, il reconnut que la prétendue sueur avait une cause indépendante de sa personne. Il s'essuya la figure, examina le chapeau, ne put rien découvrir car il n'osa découdre la coiffe. Il nota donc ceci sur son journal. Porter le chapeau chez le sieur Tournant, chapelier rue Saint-Martin, vu que je soupçonne une autre cause à cette sueur qui ne serait pas alors une sueur, mais bien l'effet d'une addition quelconque, nouvellement ou anciennement faite, au chapeau. Monsieur Tournant notifia sur le champ à sa pratique la présence d'un corps gras obtenu par la distillation d'un porc ou d'une truie. Le lendemain, Poiret vint avec un chapeau prêté par Monsieur Tournant en attendant le neuf. Mais il ne s'était pas couché sans ajouter cette phrase à son journal. « Il est avéré que mon chapeau contenait du saindoux ou graisse de porc. » Ce fait inexplicable occupa pendant plus de 15 jours l'intelligence de Poiret qui ne sut jamais comment ce phénomène avait pu se produire. On l'entretint au bureau des pluies de crapauds et autres aventures caniculaires de la tête de Napoléon trouvée dans une racine d'ormeau de 1000 bizarreries d'histoire naturelle. Vimeux lui dit qu'un jour son chapeau, à lui, Vimeux, avait déteint en noir sur son visage et que les chapeliers vendaient des drogues. Poiret alla plusieurs fois chez le sieur Tournant afin de s'assurer de ses procédés de fabrication. Il y avait encore chez Rabourdin un employé qui faisait l'homme courageux, professait les opinions du centre-gauche et s'insurgeait contre les tyrannies de Baudoyer pour le compte des malheureux esclaves de ce bureau. Ce garçon nommé Fleury s'abonnait hardiment à une feuille de l'opposition, portait un chapeau gris à grands bords, des bandes rouges à ses pantalons bleus, un gilet bleu à boutons dorés et une redingote qui croisait sur la poitrine comme celle d'un maréchal des logis de gendarmerie. Quoique inébranlable dans ses principes, il restait néanmoins employé dans les bureaux, mais il y prédisait un fatal avenir au gouvernement s'il persistait à donner dans la religion. Il avouait ses sympathies pour Napoléon depuis que la mort du grand homme faisait tomber en désuétude les lois contre les partisans de l'usurpateur. Fleury, ex-capitaine dans un régiment de la ligne sous l'empereur, grand, beau brun, était contrôleur au cirque olympique. Bissou ne s'était jamais permis de charge sur Fleury car ce rude troupier qui tirait très bien le pistolet, fort à l'escrime, paraissait capable dans l'occasion de se livrer à de grandes brutalités. Passionné souscripteur des victoires et conquêtes, Fleury refusait de payer, tout en gardant les livraisons, se fondant sur ce qu'elles dépassaient le nombre promis par le prospectus. Il adorait M. Rabourdin, qui l'avait empêché d'être destitué. Il lui était échappé de dire que si jamais il arrivait malheur à M. Rabourdin par le fait de quelqu'un, il tuerait ce quelqu'un. Dutoc caressait bassement Fleury tant il le redoutait. Fleury, criblé de dettes, jouait mille tours à ses créanciers. Expert en législation, il ne signait point de lettres de change et avait lui-même mis sur son traitement des oppositions sous le nom de créancier supposé, en sorte qu'il le touchait presque en entier. Lié très intimement avec une comparse de la Porte Saint-Martin chez laquelle étaient ses meubles, il jouait heureusement l'écarté, faisait le charme des réunions par ses talents. Il buvait un verre de vin de champagne d'un seul coup sans mouiller ses lèvres et savait toutes les chansons de Béranger par cœur. Il se montrait fier de sa voix pleine et sonore. Ces trois grands hommes étaient Napoléon, Bolivar et Béranger. Foy, Lafitte et Casimir de Lavigne n'avaient que son estime. Fleury, vous le devinez, homme du Midi, devait finir par être éditeur responsable de quelque journal libéral. Desroy, l'homme mystérieux de la division, ne frayait avec personne, causait peu, cachait si bien sa vie que l'on ignorait son domicile, ses protecteurs et ses moyens d'existence. En cherchant des causes à ce silence, les uns faisaient de Desroy un Carbonero, les autres un orléaniste, ceux-ci un espion, ceux-là un homme profond. Desroy était tout uniment le fils d'un conventionnel qui n'avait pas voté la mort. Froid et discret par tempérament, il avait jugé le monde et ne comptait que sur lui-même. Républicain en secret, admirateur de Paul-Louis Courier, ami de Michel Chrestien, il attendait du temps et de la raison publique le triomphe de ses opinions en Europe. Aussi rêvait-il la jeune Allemagne et la jeune Italie. Son cœur s'enflait de ce stupide amour collectif qu'il faut nommer l'humanitarisme, fils aîné de défunte philanthropie, et qui est à la divine charité catholique ce que le système est à l'art, le raisonnement substitué à l'œuvre. Ce consciencieux puritain de la liberté, cet apôtre d'une impossible égalité, regrettait d'être forcé par la misère de servir le gouvernement, et faisait des démarches pour entrer dans quelque administration de messagerie. Long, sec, filandreux et grave comme un homme qui se croyait appelé à donner un jour sa tête pour le grand œuvre, il vivait d'une page de Volney, étudiait Saint-Just et s'occupait d'une réhabilitation de Robespierre, considéré comme le continuateur de Jésus-Christ. Le dernier de ces personnages qui mérite un coup de crayon est le petit Labillardaire. Ayant pour son malheur perdu sa mère, protégée par le ministre, exempt des rebuffades de la place Baudoyer, reçu dans tous les salons ministériels, il était haï de tout le monde à cause de son impertinence et de sa fatuité. Les chefs se montraient polis avec lui, mais les employés l'avaient mis en dehors de leur camaraderie par une politesse grotesque inventée pour lui. Bellâtre de 22 ans, long et fluet, ayant les manières d'un Anglais, insultant les bureaux par sa tenue de dandy, frisé, parfumé, colleté, venant en gants jaunes, en chapeau, à coiffe toujours neuve, ayant un lorgnon, allant déjeuner au Palais-Royal, étant d'une bêtise vernissée par des manières qui sentaient l'imitation, Benjamin de la Billardière se croyait joli garçon et avait tous les vices de la haute société sans en avoir les grâces. Sûr d'être fait quelque chose, il pensait à écrire un livre pour avoir la croix comme littérateur et l'imputer à ses talents administratifs. Il cajolait donc Bissou dans le dessein de l'exploiter, mais sans avoir encore osé s'ouvrir à lui sur ce projet. Ce noble cœur attendait avec impatience la mort de son père pour succéder à un titre de baron accordé récemment. Il mettait sur ses cartes le chevalier de la Billardière et avait exposé dans son cabinet ses armes encadrées. Chef d'azur à 3 étoiles et 2 épées en sautoir sur un fond de sable avec 7 devises, toujours fidèle. Ayant la manie de s'entretenir de l'art héraldique, il avait demandé au jeune vicomte de Portuandère pourquoi ces armes étaient si chargées, et s'était attiré cette jolie réponse « Je ne les ai pas fait faire ». Il parlait de son dévouement à la monarchie et des bontés que la dauphine avait pour lui. Très bien avec des Lupeaulx, il déjeunait souvent avec lui et le croyait son ami. Bixiou, posé comme son mentor, espérait débarrasser la division et la France de ce jeune fat en le jetant dans la débauche, et il avouait hautement son projet. Telles étaient les principales physionomies de la division Labillardère, où il se trouvait encore quelques autres employés dont les mœurs ou les figures se rapprochaient ou s'éloignaient plus ou moins de celles-ci. On rencontrait dans le bureau baudoyer des employés à front chaud, frileux, bardés de flanelle, perchés à des cinquièmes étages y cultivant des fleurs, ayant des cannes d'épines, de vieux habits râpés, le parapluie en permanence. Ces gens qui tiennent le milieu entre les portiers heureux et les ouvriers gênés, trop loin des centres administratifs pour songer à un avancement quelconque, représentent les pions de l'échiquier bureaucratique. Heureux d'être de garde pour ne pas aller au bureau, capables de tout pour une gratification, leur existence est un problème pour ceux-là même qui les emploient, et une accusation contre l'État qui certes engendre ces misères en les acceptant. À l'aspect de ces étranges physionomies, il est difficile de décider si ces mammifères à plumes se crétinisent à ce métier ou s'ils ne font pas ce métier parce qu'ils sont un peu crétins de naissance. Peut-être la part est-elle égale entre la nature et le gouvernement. Les villageois, a dit un inconnu, subissent sans s'en rendre compte l'action des circonstances atmosphériques et des faits extérieurs. Identifiés en quelque sorte avec la nature au milieu de laquelle ils vivent, ils se pénètrent insensiblement des idées et des sentiments qu'elle éveille et les reproduisent dans leurs actions et sur leur physionomie, selon leur organisation et leur caractère individuel. Moulés ainsi et façonnés de longues mains sur les objets qui les entourent sans cesse, ils sont le livre le plus intéressant et le plus vrai pour quiconque se sent attiré vers cette partie de la physiologie, si peu connue et si féconde, qui explique les rapports de l'être moral avec les agents extérieurs de la nature. Or, la nature, pour l'employé, c'est les bureaux. Son horizon est de toutes parts borné par des cartons verts. Pour lui, les circonstances atmosphériques, c'est l'air des corridors, les exhalaisons masculines contenues dans des chambres sans ventilateur, la senteur des papiers et des plumes. Son terroir est un carreau ou un parquet émaillé de débris singuliers humectés par l'arrosoir du garçon de bureau. Son ciel est un plafond auquel il adresse ses bâillements, et son élément est la poussière. L'observation sur les villageois tombe à plomb sur les employés identifiés avec la nature au milieu de laquelle ils vivent. Si plusieurs médecins distingués redoutent l'influence de cette nature, à la fois sauvage et civilisée, sur l'être moral contenu dans ces affreux compartiments nommés bureaux, où le soleil pénètre peu, où la pensée est bornée en des occupations semblables à celles des chevaux qui tournent un manège, qui bâillent horriblement et meurent promptement. Rabourdin avait donc profondément raison en raréfiant les employés, en demandant pour eux et de forts appointements et d'immenses travaux. On ne s'ennuie jamais à faire de grandes choses. Or, tels qu'ils sont constitués les bureaux, sur les 9 heures que leurs employés doivent à l'État, en paire de 4 en conversation, comme on va le voir, en arrêt, en dispute et surtout en intrigue. Aussi faut-il avoir hanté les bureaux pour reconnaître à quel point la vie rapetissée y ressemble à celle des collèges, mais partout où les hommes vivent collectivement, cette similitude est frappante. Au régiment, dans les tribunaux, vous retrouverez le collège plus ou moins agrandi. Tous ces employés réunis pendant leur séance de 8 heures dans les bureaux y voyaient une espèce de classe où ils avaient des devoirs à faire, où les chefs remplaçaient les préfets d'études, où les gratifications étaient comme des prix de bonne conduite donnés à des protégés, où l'on se moquait les uns des autres, où l'on se haïssait, et où il existait néanmoins une sorte de camaraderie, mais déjà plus froide que celle du régiment, qui elle-même est moins forte que celle des collèges. À mesure que l'homme s'avance dans la vie, l'égoïsme se développe et relâche les liens secondaires en affection. Enfin, les bureaux, n'est-ce pas le monde en petit, avec ses bizarreries, ses amitiés, ses haines, son envie et sa cupidité, son mouvement de marche quand même, ses frivoles discours qui font tant de plaies et son espionnage incessant. En ce moment, la division de Monsieur le baron de la Billardère était en proie à une agitation extraordinaire, bien justifiée par l'événement qui allait s'y accomplir. Car les chefs de division ne meurent pas tous les jours, et il n'y a pas de tontine où les probabilités de vie ou de mort se calculent avec plus de sagacité que dans les bureaux. L'intérêt y étouffe toute pitié, comme chez les enfants, mais les employés ont l'hypocrisie de plus. Vers 8 heures, les employés du bureau Baudoyer arrivaient à leur poste, tandis qu'à 9 heures, ceux de Rabourdin commençaient à peine à se montrer, ce qui n'empêchait pas d'expédier la besogne beaucoup plus rapidement chez Rabourdin que chez Baudoyer. Dutoc avait de graves raisons pour être venu de si bonne heure. Entré furtivement la veille dans le cabinet où travaillait Sébastien, il l'avait surpris copiant un travail pour Rabourdin. Il s'était caché et avait vu sortir Sébastien sans papier. Sûr alors de trouver cette minute assez volumineuse et la copie cachée en un endroit quelconque, en fouillant tous les cartons l'un après l'autre, il avait fini par trouver ce terrible état. Il s'était empressé d'aller chez le directeur d'un établissement autographique, faire tirer 2 exemplaires de ce travail au moyen d'une presse à copier, et posséder ainsi l'écriture même de Rabourdin. Pour ne pas éveiller le soupçon, il s'était hâté de replacer la minute dans le carton en se rendant le premier au bureau. Retenu jusqu'à minuit rue Dufaux, Sébastien fut, malgré sa diligence, devancé par la haine. La haine demeurait rue Saint-Louis-Saint-Honoré, tandis que le dévouement demeurait rue du Roi-Doré au Marais. Ce simple retard pesa sur toute la vie de Rabourdin. Sébastien, pressé d'ouvrir le carton, y trouva sa copie inachevée, la minute en ordre, et les serra dans la caisse de son chef. Vers la fin de décembre, il fait souvent peu clair le matin dans les bureaux, il en est même plusieurs où on gardait des lampes jusqu'à 10 heures. Sébastien ne put donc remarquer la pression de la pierre sur le papier. Mais quand à 9h30, Rabourdin examina sa minute, il aperçut d'autant mieux l'effet produit par les procédés de l'autographie qu'il s'en était beaucoup occupé pour vérifier si les presses d'autographie remplaceraient les expéditionnaires. Le chef de bureau s'assit dans son fauteuil, prit ses pincettes et se mit à arranger méthodiquement son feu, tant il fut absorbé par ses réflexions. Puis, curieux de savoir entre les mains de qui se trouvait son secret, il manda Sébastien. « Quelqu'un est venu avant vous au bureau ?» lui demanda-t-il. « Oui, » dit Sébastien, « Monsieur Dutoc. »« Bien, il est exact. Envoyez-moi Antoine. » Trop grand pour affliger inutilement Sébastien, lui reprochant un malheur consommé, Rabourdin ne lui dit pas autre chose. Antoine vint, Rabourdin lui demanda si la veille il n'était pas resté quelques employés après 4 heures. Le garçon de bureau lui nomma Dutoc comme ayant travaillé plus tard que M. de la Roche. Rabourdin congédia le garçon par un signe de tête et reprit le cours de ses réflexions. « À 2 fois j'ai empêché sa destitution, se dit-il. Voilà ma récompense. » Cette matinée devait être pour le chef de bureau comme le moment solennel où les grands capitaines décident d'une bataille en pesant toutes les chances. Connaissant mieux que personne l'esprit des bureaux, il savait qu'on n'y pardonne pas plus là qu'on ne le pardonne au collège, au bagne ou à l'armée, ce qui ressemble à la délation, à l'espionnage. Un homme capable de fournir des notes sur ses camarades est honni, perdu, vilipendé. Les ministres abandonnent en ce cas leurs propres instruments. Un employé doit alors donner sa démission et quitter Paris, son honneur est à jamais taché. Les explications sont inutiles, personne n'en demande ni n'en veut écouter. À ce jeu, un ministre est un grand homme, il est censé choisir les hommes, mais un simple employé passe pour un espion, quels que soient ses motifs. Tout en mesurant le vide de ses sottises, Rabourdin les savait immenses et s'en voyait accablé. Plus surpris qu'atterré, il chercha la meilleure conduite à tenir dans cette circonstance et resta donc étranger au mouvement des bureaux mis en émoi par la mort de M. de la Billardière. Il ne l'apprit que par le petit de la Brière qui savait apprécier l'immense valeur du chef de bureau.